Vous écoutez France Culture.
Bienvenue sur France Culture en ce deuxième dimanche de Carême. Nous nous retrouvons dans le cadre de la série des conférences du Carême protestant intitulée « Quel esprit nous anime ?» Quel est cet esprit qui habite en nous et qui nous inspire ? Le pasteur Corinne Acli de l'Église protestante unie de France s'est chargé de la préparation des conférences du Carême protestant pour cette année 2014. Elle nous propose de nous intéresser aujourd'hui à notre esprit d'équipe. Alors un esprit d'équipe qui, je dois le dire, a été vécu et expérimenté cette année dans le cadre de ces conférences du Carême protestant, puisque Corinne Acli a été empêchée par un problème de santé pour se rendre dans les studios et pour donner ses conférences elle-même. Elle est donc représentée au micro par le pasteur Marianne Guéroux. Voici tout de même quelques mots du pasteur Corinne Acli.
Chers auditeurs, bonjour. Une hospitalisation m'a empêché d'enregistrer moi-même les conférences de Carême. Merci au pasteur Marianne Guéroux d'avoir prêté sa voix et son souffle. C'est le signe qu'aujourd'hui encore, nous partageons le même esprit qui nous rassemble. Esprit d'équipe, esprit de non-concurrence et d'humilité. Que l'esprit qui nous fait vivre soit avec chacun, chacune d'entre vous et qu'il vous comble de joie.
Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Quel esprit nous anime aujourd'hui ? L'esprit d'équipe.
D'abord, je voudrais tout simplement accueillir les auditeurs et les auditrices qui nous rejoignent pour cette conférence de Carême. Pour nous préparer à vivre l'événement de Pâques, nous allons nous confronter à des textes de la Bible qui nous questionnent sur nos comportements, notre manière de vivre ensemble. Du temps de Jésus de Nazareth, les disciples cherchaient à savoir qui était le plus grand, le plus méritant. Jésus inverse leur échelle de valeur. Il prône l'accueil inconditionnel, la non-concurrence, l'esprit de service et de réconciliation. Mais voilà, on ne change pas du jour au lendemain, comme par magie. C'est une transformation lente qui vient contrecarrer nos habitudes, nos pesanteurs, nos réflexes. Nous ne sommes pas des surhommes, mais nous sommes en marche. Il y a des réussites et des échecs, des impasses et des erreurs. Mais l'esprit qui habite en nous et qui nous inspire nous ouvre sur une nouveauté de vie, un renouvellement de nos forces et de nos intelligences. Laissons cet esprit nous guider tout au long de ce temps du Carême. Avant d'ouvrir la Bible, c'est par la louange que nous entrons dans ce moment de réflexion avec ce poème de Charles Singer. Aujourd'hui, je voudrais que des musiques traversent toutes les maisons et que des bougies brûlent près de la porte comme des flammes de bonheur. Aujourd'hui, je voudrais que des arcs-en-ciel se dessinent sur tous les murs et que des tulipes s'accrochent aux fenêtres comme des calices de lumière. Aujourd'hui, je voudrais que parents et enfants sortent et se rassemblent. Aujourd'hui, je voudrais que des chants retentissent de toutes les églises et que la gaieté illumine tous les visages. Aujourd'hui, je chante pour toi, Seigneur, et je te donne mon temps. Aujourd'hui, au milieu de mes amis, je t'écouterai et tu nous diras comment rendre les hommes heureux. Aujourd'hui sera jour de fête, une fête pour toi, Seigneur. je vous propose deux lectures. D'abord dans la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 15, puis un extrait du chapitre 9 de l'Évangile selon Luc. Si nous sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne sont pas forts, au lieu de faire ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche ce qui plaît à son prochain, en vue de ce qui est bon et constructif. Le Christ, en effet, n'a pas fait ce qui lui plaisait. Mais ainsi qu'il est écrit, « Les insultes de ceux qui t'insultent sont retombées sur moi. » Car tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction, afin que par la persévérance et par l'encouragement des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de l'encouragement vous donne d'être bien d'accord entre vous, selon Jésus-Christ, pour que, d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ lui-même vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Puis dans l'Évangile selon Luc, les disciples se mirent à discuter pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, qui connaissait la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Jean prit la parole et dit « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne te suit pas avec nous. » Jésus lui dit « Ne l'en empêchez pas. En effet, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. » Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, il durcit son visage, prenant la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Et il envoya devant lui des messagers. Ils se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains afin de faire des préparatifs pour lui. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. À cette vue, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel et de les consumer ?» Jésus se tourna vers eux et les reprit sévèrement en disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. L'Évangile de Luc nous montre les disciples voulant faire tomber la foudre sur un village samaritain qui avait manqué d'hospitalité. Et beaucoup de versions indiquent que Jésus les réprimanda en leur disant « Savez-vous quel esprit vous anime ? Le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire les vies, mais pour les sauver. » Cette traduction n'a pas été retenue par la majorité de nos Bibles contemporaines. La traduction œcuménique de la Bible de Jérusalem, la Bible en français courant ou en français fondamental, se contentent de souligner que Jésus les rabroua, leur parla sévèrement. Mais les versions de Louis II, de Darby, de Martin, et même la version de la New American Standard Bible, qui date de 1995, complètent la réprimande de Jésus par ce commentaire. « You don't know what kind of spirit you are of. » Vous ne vous rendez pas compte de quel esprit vous faites le jeu. J'aime cette version. savez-vous de quel esprit vous êtes animé ? Parce qu'elle nous ouvre sur la profondeur de la pensée de Jésus. Il ne fait pas que critiquer ses disciples. Il va à la cause profonde de leur méchanceté et de leur ignorance. Il discerne, par-delà leur attitude, le mauvais esprit dont ils sont victimes. C'est comme un regret, une profonde tristesse pour le rabbi de Nazareth, de constater que ses élèves ne sont pas encore au diapason de Dieu. L'Esprit-Saint n'est pas encore aux commandes de leur vie. Ils restent englués dans leur routine et leurs réflexes, prêts à utiliser leur nouveau pouvoir pour détruire et assouvir leur soif de vengeance. Savez-vous quel esprit vous anime ? Les disciples, dans ce court passage de Luc, ne sont pas dans leur meilleure forme. Où est passé leur sens de l'humour ? Où est passé leur bel enthousiasme, leur union fraternelle, leur amitié, leur humilité, leur zèle à se mettre au service ? Nous les découvrons imbus d'eux-mêmes et de leur supériorité, cherchant à savoir qui est le plus grand, qui sera le plus digne de succéder au maître, mettant leurs talents en concurrence et se mesurant également avec les autres, ceux qui, hors du cercle des 12, prétendent parler et agir au nom de Jésus. Les voilà qui s'arrogent des droits d'auteur, qui s'autoproclament seuls ayant droit dans l'héritage spirituel et dans les méthodes thérapeutiques brevetées et inscrites à la protection des droits d'auteur. Nous avons trouvé quelqu'un qui chasse les mauvais esprits en ton nom, et nous sommes intervenus pour l'en empêcher, car il ne marche pas avec nous. Et eux, qui chassera leur mauvais esprit ? Savez-vous de quel esprit vous êtes animés ? Pauvres disciples, ils ont tout faux aujourd'hui. Et nous pouvons bien les plaindre et les tourner en ridicule, tellement ils sont bêtes, méchants, bornés. Pas question de les citer en exemple et de conformer notre conduite à la leur. Rien qu'à cause de ce texte, je crois à l'existence de Dieu, un Dieu tout autre, dont les pensées ne sont pas nos pensées, un Dieu qui cherche à sauver là où la logique humaine voudrait rayer, effacer, détruire. C'est peut-être une des rares preuves de l'existence de Dieu qui nous est ainsi donnée noir sur blanc. Quel miracle surnaturel, surhumain, extraordinaire, que la bonne nouvelle du Christ soit parvenue jusqu'à nous, malgré la faiblesse et la médiocrité des disciples et des témoins. La bêtise humaine est incommensurable. Dans la langue arabe, il existe deux mots pour traduire le pauvre. Et ces deux mots sont passés dans la langue française. Il y a d'abord le miskin, le mesquin avec sa petitesse, ses vues étroites, son manque de style, son manque de culture et de grandeur d'âme. Et puis il y a le fakir. Le fakir, avec sa noblesse dans le dépouillement, son art de vivre, sa philosophie. Il me semble que dans la succession apostolique, à travers les 20 siècles qui se sont écoulés depuis le manuscrit de Luc, nous nous sommes souvent ingéniés à ressembler aux mesquins. Nous avons pris exemple sur Jacques et Jean, que Jésus surnommait les Boanerges, les fils du tonnerre. Nous avons attisé les luttes intestines, par esprit de clan, par esprit de division, par esprit de jugement et d'intolérance. Nous avons bourré nos confessions de foi d'avalanches d'anathèmes contre tous ceux qui ne pensaient pas exactement comme nous, tous ceux qui tentaient de s'éloigner de la ligne institutionnelle officielle. Et de schisme en schisme, d'hérésie en secte, nous avons réussi à morceler le témoignage de l'Église du Christ. Il ne reste plus de nos jours beaucoup de disciples qui ressemblent à des enfants, ni d'ailleurs de chasseurs de démons. Mais nous n'avons pas fait que nous éloigner les uns des autres. Nous avons aussi su, au cours des siècles, favoriser l'esprit d'association, l'esprit d'union. Et lorsque nous travaillons en synode, nous tissons ce chemin commun du vivre ensemble. Les chrétiens ont su, à travers l'histoire, se montrer constructifs et solidaires. Par exemple, la distribution massive de Bibles traduites dans la langue maternelle de millions de personnes a contribué à mettre en route de nouveaux compagnons extrêmement différents d'une extrémité à l'autre de la terre. Tous assoiffés d'entendre et de partager la bonne nouvelle de ce Dieu qui est venu marcher sur les routes des hommes. Et puis, tous ces mouvements d'alliance, de concorde, de fédération, d'union nationale ou internationale, ces conseils œcuméniques universels, ces consistoires, ces synodes, ces plateformes de dialogue et d'action commune. Tout cela est aussi le reflet de la volonté profonde de marcher ensemble, non dans une uniformité desséchante ou contraignante, mais dans la pluralité des membres et des organes d'un même corps, avec des sens, des sensibilités et des fonctions distinctes et indispensables. Et aujourd'hui encore, nous pouvons atteindre cet état d'esprit, unir nos dons, nos richesses, faire grandir entre nous l'esprit de concorde, de communion, de soutien mutuel et de témoignage commun. Alors, il ne s'agit pas de faire l'unité pour faire l'unité, de montrer qu'on est grand et fort et nombreux, et de présenter des chiffres, des statistiques du volume. Ce serait revenir aux versets 46 et 47 de l'évangile de Luc au chapitre 9, au moment où les disciples se demandent s'ils sont les plus grands, les plus beaux, les meilleurs. Non, ce serait revenir à ce qui habite le plus profond du cœur de l'homme et de la femme, de siècle en siècle. Miroir, mon beau miroir, suis-je toujours la plus belle ? Blanche-Neige, comme tous les contes d'enfants, révèle nos angoisses les plus secrètes. Mais il s'agit d'obéir au commandement de l'accueil, l'accueil de l'enfant. L'accueil de l'enfant par des adultes bienveillants qui marchent à ses côtés pour l'aider à traverser, à avancer. L'accueil du plus petit, comme porteur de l'image du Christ lui-même et de celui qui l'a envoyé. L'accueil de l'autre, selon l'apôtre Paul, l'accueil du faible qui engage l'effort à porter l'infirmité du plus faible, comme les porteurs de foi qui ont fait passer le brancard du paralysé par le toit de la maison, l'accueil réciproque, mutuel, les uns, les autres. Parce que cet accueil est à l'image et à la ressemblance de l'accueil que le Christ lui-même a manifesté pour chacun et chacune séparément et de manière spécifique.
Thank you.
esprit d'accueil. Voilà ce que le Christ nous propose de vivre, d'expérimenter ensemble. Et s'accueillir, ce n'est pas simplement se supporter, s'épauler, s'équilibrer, se tolérer ou gommer nos spécificités, mais c'est notre manière de manifester la grandeur de la gloire de Dieu. En effet, l'évangéliste Luc dit que s'accueillir, accueillir un enfant, c'est accueillir Dieu et son envoyé. Il souligne que le Fils de l'homme n'est pas venu détruire, mais sauver les vies humaines. Quant à l'apôtre Paul, il évoque deux fois la glorification de Dieu, comme le seul but et l'aboutissement de nos alliances et de nos efforts d'accueil mutuel. Il dit « Soyez bien d'accord entre vous, comme le veut Jésus-Christ, afin que d'un même cœur et d'une seule voix, d'une seule bouche, vous rendiez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Le but final de l'œuvre du Christ, comme celui de la vie communautaire, est donc bien la gloire de Dieu. Est-ce bien là l'esprit qui nous anime ? Non pas l'esprit mesquin de la vaine gloriole, de la concurrence médiocre et des statistiques matérialistes, mais cet esprit d'accueil fraternel, de reconnaissance mutuelle et de témoignage commun à la gloire de Dieu dans l'actualité de notre société. Voici le défi qui s'ouvre à nous dans cette marche vers Pâques. Changer d'état d'esprit. Prendre résolument le chemin du don et du pardon. Abandonner le miroir déformant qui flatte notre ego pour accueillir l'autre dans toute sa différence. Renoncer à être les plus beaux, les plus forts, les meilleurs. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, et cela aussi nous devons l'accepter. C'est une longue marche et une lente transformation. Sommes-nous capables de surmonter nos différences et d'en apprécier la saveur originale? Sommes-nous capables de ranger les armes, les boucliers et les rancœurs du passé pour faire un bout de route ensemble? Juifs et grecs, juifs et samaritains, et puis aussi grecs et samaritains. Et sommes-nous capables d'accepter ceux qui viennent travailler sur nos plates-bandes? L'esprit d'équipe, cela n'est pas vraiment notre fort. Nous aimerions, comme les 12 premiers disciples, garder la maîtrise de ce que nous faisons. Or, la mission que le Christ nous confie est bien trop grande et trop importante et trop précieuse pour qu'on l'accapare. La récolte ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas les propriétaires, même si nous nous conduisons souvent en gérant tyrannique. Est-ce que nous souhaitons vraiment avoir d'autres ouvriers à nos côtés ? Est-ce que nous sommes prêts à réorganiser le travail pour qu'il y ait place pour chacun, pour que personne ne se sente exclu, mal jugé ou sous-exploité? Oui, nous sommes appelés à une responsabilité collégiale. Travailler ensemble, sous la houlette d'un seul patron, et dans le même but, rendre gloire au Seigneur. Pour conclure cette conférence, je vous invite à écouter cette prière de Francine Robillot, dont le titre est « Ensemble, faisons route ». Marchons ensemble. Que les plus vigoureux attendent et aident ceux qui sont à la traîne. Que les plus solitaires se tournent vers les autres. Que les plus faibles osent s'appuyer sur ceux qui tendent la main. Que les plus inquiets te fassent confiance, car c'est toi, Seigneur, qui nous mets en route. Marchons ensemble. Que les plus actifs s'arrêtent pour réfléchir et évaluer. Que les plus négligents reprennent courage et entendent l'appel que tu leur lances. Que les plus sceptiques se laissent pénétrer de ton esprit, car c'est toi, Seigneur, qui nous mets en route. Marchons ensemble. Que les plus fidèles voient leur foi raffermie. Que les plus étrangers se sentent accueillis et utiles à tous. Que les plus délaissés sachent que le monde a besoin d'eux, que l'Église a besoin d'eux, que tu as besoin d'eux. Car c'est toi, Seigneur, qui nous mets en route. Marchons ensemble. Que les plus bavards se taisent pour écouter les autres. Que les muets sachent que leur façon de communiquer sera entendue. Que ceux que l'on n'écoute jamais sachent qu'un effort sera fait pour prendre leurs paroles en compte. Car c'est toi, Seigneur, qui invite à libérer la parole. Marchons ensemble dans le monde d'aujourd'hui. Marchons ensemble, tous avec toi, Seigneur.
Ainsi s'achève cette deuxième conférence du Carême protestant préparée par le pasteur Corinne Acli de l'Église protestante Unie de France et donnée par le pasteur Marianne Guéroux. Le Carême protestant, coordination Brigitte Iselin, Antoine Sédoux et le pasteur Denis Heller. Pour la Fédération protestante de France, Michel Schaeffer. Merci à Marie Placé pour la réalisation de cette émission, à Olivier Dupré pour la prise de son. Sachez que vous pouvez commander l'ensemble de cette édition 2014 du Carême protestant sous la forme d'un coffret de 3 CD ou rassemblé dans une brochure éditée par Olive Etang. Au Carême protestant, 27 rue de l'Annonciation, 75 016 Paris ou par internet www.carême-protestant.org. D'autres informations à trouver sur le site franceculture.fr. Très bon dimanche à vous tous.